du jour avec le Père Willem.
Sur les chemins du serviteur, la première question que Jésus pose, de quoi discutiez-vous en marchant? C'est une question coutumière qu'il a souvent posée à ses apôtres. Ils n'étaient pas toujours très fiers, ces apôtres, quand ils étaient ainsi interrogés. Car chaque fois qu'ils étaient questionnés par le Christ, force était de constater qu'ils ne méditaient pas sur l'enseignement et les miracles de leur maître, mais plutôt se querellaient pour des histoires de préscience, comme on l'a vu souvent et encore aujourd'hui dans notre Église. Par contre, sur le chemin d'Emmaüs, les deux hommes s'arrêtèrent, tout tristes. Cette question est une invitation à la relecture de vie. Elle est adressée à chacun. Et si nous nous arrêtons tout tristes, il n'est pas inutile de nous interroger. Qu'est-ce qui nous rend mon visage triste, mon visage sombre? D'où vient cette tristesse intérieure? Pourquoi suis-je si accablé? Est-ce des souvenirs pas guéris? Est-ce un pardon refusé à soi-même ou à autrui ou à Dieu lui-même que j'accuse? Est-ce une désillusion sur mon ministère, ma vocation? Souvenons-nous des deux maladies spirituelles que les anciens avaient repérées chez les moines du désert de la Haute Égypte. L'acédia et la superbia. Ceux qui souffraient d'acédia faisaient le vide autour d'eux. Ils étaient pris d'une langueur permanente et leur visage sombre était l'expression de leur désillusion. L'accès à la sainteté, la mise en œuvre des conseils évangéliques leur semblait trop lointain, inaccessible. Ils renonçaient à croire au salut. D'autres, au contraire, souffraient de superbia. Ils étaient tout aussi sinistres et faisaient aussi le vide autour d'eux, mais pour une autre raison. Orgueilleux et suffisant, ils se mettaient en spectacle et se présentaient comme détenteurs d'une vérité dont ils étaient censés n'être que les dépositaires. Il n'est pas sûr que ces maladies spirituelles aient vraiment disparu de notre paysage. Il nous arrive souvent d'en retrouver la trace, par exemple dans les associations caritatives. L'acédia pointe son nez quand nous entendons, lors d'échanges informels, un tel « Eh bien, il n'y a rien à en tirer. C'est un escroc professionnel. On a tout essayé. On ne peut plus rien. Plus rien pour lui. » Alors les visages s'assombrissent et le goût de service devient amer. La superbia, de son côté, se glisse dans des propos plus arrogants. Avec notre mode de fonctionnement et notre charte, on ne peut que réussir. La preuve, ce sont nos résultats en matière de réinsertion pour le logement et l'emploi. Mais quand on y regarde de plus près, que l'on vérifie le maintien dans le logement et la qualité de l'emploi, on est invité à plus d'humilité. Si les pères du désert parler de maladies, c'est pour signifier qu'elles étaient soignables et guérissables. Parmi les soins conseillés, il y avait notamment l'humour, notamment sur soi-même, et la correction fraternelle. Cette thérapie reste certainement valable pour soigner certains visages sombres, comme ceux du chemin d'Emmaüs. En fait, l'évangile de Luc nous montre comment sur le chemin d'Emmaüs s'opère une alchimie étonnante. L'approche du Christ dans nos vies tristes nous ouvre progressivement l'intelligence du cœur et nous permet, lorsque nous contemplons la figure du serviteur, de retrouver un élan joyeux, un cœur brûlant pour rejoindre les frères avec qui nous avions pris nos distances. Sur ce chemin, il convient de reconnaître notre propre pauvreté. Je me souviens d'un enseignement de Jean Vanier, fondateur de l'Arche, qui évoquait une correspondance avec un psychologue agnostique. Ce dernier lui disait « Oh, vous êtes bizarres, les chrétiens, vraiment bizarres. Vous êtes vite enclin à reconnaître dans le visage d'un pauvre le visage du Christ. Mais quand c'est vous qui êtes confronté à vos propres pauvretés intérieures, vous n'êtes plus capable d'y reconnaître le visage du Christ et vous sombrez dans la culpabilité, le remords ou la dépression spirituelle. » Eh bien, ce psychologue était très perspicace. Il devinait intuitivement les chemins d'Emmaüs. C'est dans le creuset de notre misère et de nos blessures que le Christ serviteur vient nous rejoindre pour renouveler notre vocation. Passer du visage sombre au cœur brûlant en se laissant rejoindre au creuset de nos questions, de nos questionnements et même de nos révoltes avec le Christ serviteur qui nous aide à vider notre sac, relire notre vie, reformuler notre discernement à la lumière des Écritures. Voilà probablement le chemin d'Emmaüs où nous sommes invités. Vers la fin du texte de l'Évangile selon saint Luc, sur l'épisode du chemin d'Emmaüs, quelques mots retiennent toute notre attention. Reste avec nous. Cette invitation prononcée par les marcheurs à l'attention de leurs compagnons de route, qu'ils n'ont toujours pas reconnus, évoque toutes ces invitations prononcées par les hommes et les femmes de bonne volonté à l'intervention du Christ, alors même qu'ils ne le reconnaissaient pas. C'est un acte d'hospitalité, un acte de charité et de solidarité envers ce marcheur inconnu qui s'avance dans la nuit. Pour beaucoup d'hommes et de femmes, ce n'est pas la foi et la prière qui les conduisent au partage et à la solidarité, c'est l'inverse. Le sens des autres, le goût de la relation, l'attention spontanée aux problèmes de ceux qui sont en difficulté, les amène à dire « Ben reste avec nous, reste avec nous !» Et quelquefois, c'est celui qu'ils ont accueilli qui les ouvre à autre chose, de plus profond que la seule expérience humaniste. Il les ouvre à une expérience spirituelle, parfois même à la prière et à l'espérance. L'accueil des migrants est souvent le lieu de notre aventure intérieure. En donnant le nom d'Emmaüs à son œuvre de solidarité et de partage, l'abbé Pierre avait longuement médité sur le reste avec nous à l'entrée de l'auberge. Pour lui, Emmaüs était l'exemple d'une fausse route, d'une erreur de parcours, d'une mauvaise destination. Mais c'est précisément sur cette fausse route que le Christ serviteur vient nous rejoindre. Mieux encore, il ne nous juge pas et fait semblant de vouloir poursuivre lui-même sa marche sur cette fausse route.